France Culture.
Rien n'est simple avec le cabaret dont les contours varient en permanence. Céline Duchesne, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui s'offre en bouquet final à l'année 2025, une tournée des Grands-Ducs sur toutes les scènes, les spectacles et les figures qui ont marqué en France et en Europe l'ère des Lumières à l'âge des Sunlight, l'histoire du cabaret. Une tournée des Grandes Duchesses rendue possible grâce à Les Pastrouilles en volume, publié chez Michel Lafond, en partenariat avec France Culture, bien évidemment par Céline Duchesne. Céline qui a convié pour l'occasion Monsieur K et Martin Dost de La Barbichette et du Cabaret Poussière. Chronique en second temps d'émission, signé Céline Duchesne et Paloma Hermine Hidalgo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, et j'espère tous que vous avez une sévère gueule de bois après ce Noël 2025. J'espère que tout s'est très bien passé, ou plutôt que c'est très mal passé, que ce fut festif et inoubliable. Eh bien, on va rajouter une couche ce soir dans votre émission préférée en évoquant le cabaret grâce à Céline Duchesne. Elle est là, bonsoir.
Bonsoir François.
Et elle a sorti aux éditions Michel Lafond un livre qui s'appelle Cabaret au pluriel, car il est des cabarets.
Eh bien oui, je trouve que le pluriel permet de parler de toutes sortes de cabarets, d'où le S.
Très bien. Et vous avez convié pour parler du S et des cabarets.
Eh bien, vous l'avez dit, Monsieur K et Monsieur Martin Dost.
Monsieur K, qu'on connaît bien. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Martin Dost, qu'on connaît bien aussi.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue dans Mauvais Genre. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas de souvenirs. Vous êtes la primo débutant.
C'est la première fois en présentiel.
Ah, merveilleux,
mais il était venu dans l'encyclopédie pratique des Mauvais Genres en 2020.
Évidemment, je parle du présentiel. Okay. Ben, bravo et bienvenue à Mauvais Genre. Bienvenue à Mauvais Genre, Paloma Hidalgo.
Merci beaucoup, cher François.
Ça fait longtemps qu'on ne vous a vu. Qu'est-ce que vous avez fait? Une tournée mondiale?
Absolument. Et récemment en Belgique.
En Belgique?
À l'Académie royale de langue et littérature française.
Ah, vous avez participé à un colloque, m'a dit mon petit
Exactement,
doigt.
Exactement, littérature et érotisme. Ça vous intéresse peut-être?
Ah, ça, on verra. On en parlera
hors micro.
Hors
antenne.
En attendant, on va s'occuper de l'antenne, c'est quand même un minimum, et on va écouter Céline, je crois, nos deux invités.
Eh bien, en situation, puisque en situation. C'est le terme qu'on utilise depuis tout à l'heure. Voilà, dans leur cabaret respectif.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs les non-binaires, vous êtes bien arrivés au cabaret de...
Poussière !
Gardez vos téléphones allumés. N'attachez surtout pas vos ceintures de sécurité. Je m'appelle Martin Dost. Je serai votre poussière.
Ça va?
Oui.
Eh bien, je crois qu'on va devoir aller vers des outils de joie et de bonheur. Pour celles et ceux qui viennent à la Barbichette depuis le mois de mai à Reims et depuis le mois d'octobre présentement, celles et ceux qui étaient à Toulouse et celles et ceux qui étaient à Fécamp, vous le savez maintenant, je partage cette joie, ce petit tic que j'ai quand je suis heureuse, je fais finalement... Et alors, j'ai compris que ça pourrait être aussi un moyen de se rendre heureux toutes et tous. Alors, à Toulouse, ils étaient 800. Attention, François. 1, 2, 3. Voilà. Ouais. Ça vous rend comment?
Jamais tu ne reviens, adorable mirage, nous laissant la staffée et le cœur supplicié. Nous reviendrons demain dans ce noir cabaret, pour être à nouveau de tes charmes sauvages.
Oh,
voilà, Monsieur K et Martin Dost dans leurs œuvres respectives en ouverture de ce dernier Mauvais Jean de l'année 2025 entièrement consacré au cabaret. Qu'est-ce que ça fait de se réentendre? On se réentend rarement au cabaret.
Bah surtout, Monsieur K. Surtout en tirant la langue, c'est très bizarre.
Alors, faut faire comment? Comment on fait?
La langue, cher François, est plus légère. Elle se courbe légèrement. Parfait.
Bon.
Avec vos impôts, mesdames et messieurs.
Alors, on tire pas la langue, d'ailleurs, au cabaret de poussière.
Ah si, moi, je fais que ça, arrête.
Oui,
t'as
c'est
vu
vrai.
La taille du machin, en plus. Moi, ma grand-mère, elle m'a dit qu'il fallait mettre en avant mes atours. Je le fais.
Bon, eh ben, très bien, mamie a toujours raison. Faites un peu, Paloma, Irmina, Ida.
Je l'ai pas. On l'a ou on l'a pas?
Non, c'est pas mal. C'est pas si mal. Alors, le cabaret, je vais commencer par citer Céline Duchesnay, parce qu'il faut toujours se référer aux sources fondamentales. Page 163 de ce très beau volume. Il existe une réelle facilité à faire cabaret. Point. Nul besoin d'un théâtre ou d'un lieu de spectacle pour performer, une cour, deux ficelles tendues dans la rue, un bar, un squat, tout lieu peut se transformer en espace de jeu. Cette économie minimale reste une force, mais aussi une fragilité. Si l'on peut aisément monter un cabaret, il est souvent plus difficile d'en vivre. Bon, tout est dit, là. Mais c'est intéressant, cette idée qu'on puisse faire cabaret avec deux bouts de ficelle et un coin de cour.
Je crois que nos deux invités... peuvent nous le dire. Je crois que l'un et l'autre n'ont pas spécialement commencé à faire du cabaret dans un cabaret. Martin, par exemple.
Oui, c'est vrai qu'on nous appelle bout de ficelle et filet de clou. Et c'est vrai que c'est ça, moi, que j'aime beaucoup dans les cabarets, c'est que c'est d'abord un espace avant d'être un lieu, et qu'on peut le faire naître absolument partout, dans toutes sortes d'endroits, sur des morceaux de trottoir, sur des bouts de rue, dans des fonds de cave un peu rances. Et c'est ça qui est magique, c'est que ça fleurit absolument partout. Et on le voit, ça a commencé à Paris, mais c'est né partout dans le monde, et je pense que ce n'est pas pour rien.
Même chose, Monsieur K, je ne crois pas que vous non plus, vous n'ayez commencé le cabaret au cabaret. Ça a commencé dans la rue, dans les bars?
Non, ça a commencé dans une arrière-salle de mairie, à peu près, c'est ça l'histoire. Mais moi, j'ai quand même des souvenirs aussi de veillées dans le cadre de l'associatif aussi, qui me font quand même penser que la veillée, qui est quand même un ancêtre du partage de choses artistiques ou pas, autour d'un verre et de manger, et pour moi l'ancêtre vraiment du cabaret en soi.
Alors cabaret, on ne parle que de ça, cabaret ce soir dans Mauvais Jean, c'est quoi cabaret? Le mot cabaret, moi je suis très... Commençons un peu, ouvrons le dictionnaire.
Vous voulez qu'on ouvre le dictionnaire?
Ah oui, cabaret, moi j'ouvre surtout le livre de Céline Duchesnay, cabaret.
Cabaret, je crois qu'on est à peu près d'accord maintenant pour dire que c'est un vieux mot en ancien français qui vient de Picardie et qui voulait dire apparemment petite chambre. Voilà l'origine. Alors après, évidemment, le mot a évolué et un cabaret. Enfin là, je parle vraiment sous les yeux de Martin et de Monsieur K. Après, le principe du cabaret, c'est que c'est un endroit où on pouvait boire, éventuellement manger. Mais au départ, ce n'est pas un lieu artistique. Il est devenu artistique bien plus tard. Mais quand on boit, quand on mange, on peut peut-être aussi pousser la chansonnette. On peut entendre tout à coup un musicien qui rentre avec son instrument de musique et tout à coup les clients peuvent se mettre à chanter et puis à danser. Donc,
espace ouvert quand même.
A priori plutôt un espace en intérieur, mais avec des gens de l'extérieur qui peuvent venir et qui peuvent venir parfois avec leurs instruments. Mais vraiment au départ ce n'est pas un lieu de spectacle, ça c'est certain.
Oui, ça peut même être synonyme de cantine. Dans les descriptions des cabarets qu'on a du 18e, 19e, on a déjà une présence artistique à certains endroits, mais il y en a d'autres, c'est décrit comme des cantines, des tables d'hôtes, des grandes tablées où l'on vient manger et où l'on vient parler. C'est des lieux comme tous les lieux de rencontre et de socialisation, c'est des lieux d'échange d'idées, de la même façon que les cafés à Londres, quand ils sont apparus au 17e siècle, ont été des lieux où on s'est mis à parler de destituer le roi. À Paris, les cabarets étaient des endroits où on a échangé des idées et où les idées libérales ont pu aussi fleurir un peu plus facilement que dans d'autres endroits.
Ça, c'est le cabaret politique, c'est un peu.
Mais même tard, juste, même juste d'échange de paroles, en fait. C'est des cantines où on peut parler. Il y a un petit guide de 1872 où un cabaret sur deux, en vrai, est une cantine et où l'auteur nous raconte les débats qu'il y a eu ce jour-là, où les gens se mettent à se parler, s'invectivent, quelqu'un monte sur la table, partage son point de vue avec le monde et d'autres lui répondent.
Oui, puis ça pouvait être aussi un lieu social, parce qu'il y a les cabarets tâcherons, qui étaient des choses assez infâmes, où on obligeait des gens à venir boire pour s'assurer d'avoir du travail. Donc c'est quand même tout un système d'estaminés. Voilà, et c'est vrai que la libération avec Rodolphe Salis du Chat Noir vers quelque chose de plus artistique a ouvert la définition du cabaret, mais il y avait d'autres formes dans les caves, dans les arrières-salles de bar. Il y a même des formes. Moi, j'aime bien aussi l'idée que toutes ces formes d'amusement populaire font partie aussi de l'histoire du cabaret, des lieux où on dansait, où il y avait une espèce de forme de spectaculaire, les charivaris, les choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment les différentes composantes du cabaret. Parce que du tout manière, ça a été utilisé comme ça, après, effectivement, avec ce point de départ qui est le Chat Noir. Donc,
On va parler évidemment abondamment du Chat Noir. Alors, est-ce qu'il y a une vraie différence entre le café-concert, le cabaret, la boîte à chansons, le...
Oui, il y en a, mais en même temps, il faut imaginer que ce sont des salles qui se sont toutes aussi presque interpénétrées. Donc, au bout d'un moment, par exemple, dans les guides de l'époque du 19e siècle, c'est parfois difficile de savoir si on a affaire à une taverne, à un cabaret, à un café-concert. Mais après, il y a des grandes tendances avec des salles différentes. Mais je sais que Monsieur K est assez spécialiste sur le sujet du music hall, et du café-concert, et du cabaret artistique. Mais ce sont des mondes assez poreux au final.
Bon, c'est avant tout une histoire de réglementation et de loi sur les différents types de lieux de spectacle. Et puis effectivement, après, la forme du cabaret est arrivée, a permis un petit peu de se déjouer de ça, puisque les gens qui se produisaient dans les music halls, dans les cafés-concerts, venaient faire du cabaret, venaient travailler dans ces cabarets, soit en fin de nuit, soit au cours d'une course pour faire 15 établissements. Parce que, par exemple, Yvette Guilbert, elle le raconte très très bien dans ses mémoires, qu'elle partait la nuit, elle faisait je ne sais pas combien d'établissements, et puis des fois, elle finissait au Chat Noir, par exemple.
Oui, il faut pas oublier qu'à l'époque, les théâtres sont très réglementés et tous les théâtres n'ont pas le droit de tout jouer. Et les opéras, à combien de personnages on a le droit à avoir sur scène ou quoi, c'est entre l'opéra comique, l'opéra Garnier, il y a des réglementations très très strictes qui font que le seul espace un peu de création, de liberté où on peut reprendre les grands tubes, ça va être dans ces tavernes, ça va être dans ces cabarets où on va retrouver les artistes qui jouaient un peu plus tôt dans la soirée dans les grands théâtres parisiens.
Ben voilà, tout ça pour vous dire qu'en effet, il est parfois un petit peu difficile de définir le terme de cabaret parce que, de par sa forme poreuse, de par le fait qu'on puisse faire cabaret un petit peu partout, eh bien, il va y avoir des influences du music hall, il va y avoir des va-et-vient avec le café-concert, la taverne est présente, bien sûr, puisqu'on peut y boire et y manger. Donc, je crois qu'essayer de donner une définition très, très stricte de ce mot cabaret est toujours un petit peu hasardeux parce que c'est un lieu que je dirais qui est ouvert aux quatre vent et à toutes les influences. Et c'est
les
aussi...
contours varient en permanence.
Oui, mais c'est pour ça, voilà, c'est pour ça aussi que c'est un lieu qui est si intéressant et qu'il a pu évoluer de cette manière. C'est parce que la définition n'est pas très stricte et c'est toujours plus intéressant, je trouve, quand les définitions ne sont pas très normées.
Il manquerait plus que le cabaret soit strict. Monsieur K.
Oui, et puis même, j'ai envie de dire, dans cette définition, il y a aussi la définition qu'on avait il y a peu de temps encore, j'ai envie de dire, dans les années 2000, d'une vision très particulière du cabaret qui confondait tout, qui confondait toute cette histoire dans une seule, et le cabaret n'était effectivement que du musical, il y avait des revues, ce n'était que la revue et éventuellement les cabarets transformistes. Point, ce rapport au café chantant, on va dire comme ça, qui est une espèce de forme de cabaret qui n'était pas le café concert, espèce de café chantant comme ça, ce sont des choses qu'on avait un peu oubliées. Oui, il y avait cette espèce de fantasme berlinois parce qu'il y a eu le film de Bob Fosse, voilà, ce qu'on s'imaginait des cafés-concerts, les vieux films, French Cancan de Renoir et des choses comme ça, mais tout ça était un peu perdu. Et ce qui est très joli, moi je trouve, c'est que dans les années 2000, c'est le questionnement que les artistes ont pu avoir sur ce qu'était le cabaret, ce dont on avait envie d'en faire maintenant, c'est-à-dire loin des formes traditionnelles. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé avec Martin il y a très peu de temps, de se dire, en fait, nous on fait plutôt une forme traditionnelle de cabaret, alors que dans l'imaginaire, c'est plutôt les plumes et la revue qui sont les formes traditionnelles. Mais en fait, ces formes très artistiques, où les artistes viennent et sont sur des propositions dans le présent, c'est-à-dire c'est un jet, c'est quelque chose qui se passe sur l'instant. Ça, ce sont des formes plutôt traditionnelles, en fait, du cabaret.
Alors, pendant longtemps, le cabaret a été un petit peu inspiré, quant à son image et son imaginaire, par celui des mystères de Paris, le lapin blanc.
Oui. Mais alors ça, c'est, je dirais que c'est le cabaret,
c'est le vieux cabaret,
le cabaret fantasmé, le cabaret des miasmes, des bas-fonds, des truands, des mendiants, et qui est une vision tout à fait 19e-iste, voilà. Je dirais, et même des grands bourgeois.
Gustave Doré, Dickens,
oui, c'est-à-dire Zola. qu'on allait s'encanailler au cabaret pour essayer de palper, toucher un petit peu cette plèbe qui les faisait tant fantasmer.
Le pauvre.
Oui. Mais alors, du coup, les descriptions qu'on a des cabarets de cette époque-là sont quand même, il me semble, des descriptions qui sont tout à fait fantasmées.
Là, je cite, cité par Céline Duchesnay, qu'on se figure une vaste salle basse, au plafond enfumé, rayée de solives noires, éclairée par la lumière incertaine d'un mauvais quinquet. Les murs lézardés, anciennement recrépis à la chaux, sont couverts çà et là de dessins grossiers ou de sentences en termes d'argot. Le sol battu, salpêtré, est imprégné de boue, une brassée de paille est déposée en guise de tapis au pied du comptoir de l'ogresse. Oui, c'est vrai que c'est pas... ça donne envie, mais pas longtemps, quoi.
Mais ce qui est intéressant avec ce fameux cabaret, c'est qu'il a pris une telle importance, parce que quand même, Les Mystères de Paris, ça a été un best-seller de son époque, qu'on en est arrivé à croire qu'il avait réellement existé, puisqu'il pouvait, par exemple, apparaître dans l'encyclopédie au nom de cabaret réel qui avait existé. C'était devenu l'incarnation du cabaret mauvaise réputation, du cabaret mauvais genre, quelque part.
Alors ce soir, c'est vous, Céline, qui êtes la meneuse de revue. Vous avez choisi plusieurs sons emblématiques du cabaret dont nous parlons dans Mauvais genre. Et le premier, c'est le deuxième, puisqu'avant il y a eu nos amis. Donc le premier, c'est Aristide Bruand. Alors on présente un peu, enfin pas Aristide Bruand, ce serait long, mais au moins ce qu'on va entendre.
Ce qui est assez génial, c'est que c'est un son qui est très ancien, puisqu'il date de 1908. Donc il faut un petit peu tendre l'oreille pour bien entendre ce que dit Aristide Bruand. Et je vais vous laisser découvrir. C'était une des grandes spécialités d'Aristide Bruand, à savoir insulter le public quand il entrait dans son cabaret.
Alors, tendez l'oreille.
Eh ben, bon Dieu, cette fois-ci, v'là du linge. C'est pas de la rinsure de la bidée, c'est de la gerbe et de la belle. Deux chouettes petites sœurs avec un ambassadeur, un miché ou un voleur, à nous les cœurs. Oh là là, ce gueule, ce billette, oh là là, ce gueule qui est là. Oh là là, ce gueule, ce billette, oh là là, ce gueule qui est là. Par ici, mes petites chattes. Mettez votre cul là.
Monsieur Bruand, il n'y a plus de place.
Il y a toujours de la place.
Tu m'en enverras trois caisses.
La ferme, toi, salaud. Et toi, Gourdiflon, viens par ici avec tes deux bergères. Maxime, foutez trois boquets à galopin que je tinque à la santé des poules de Gourdiflon. Ça te fait rien. Ici, on ne fait pas la corde. À la tienne, mon salaud. Pareil qu'on ne te refuse rien dans ta famille. C'est à toi ces deux ponettes là.
Monsieur Félon Sandoui. Il promène sa bidoche entre deux tableaux.
Oui, il a pris deux grandesses pour être plus sûr d'être cocu. Ah, deux chameaux, vous allez taire vos gueules, on va vous chanter les petits joyeux. Et tâchez d'en prendre en point si vous en êtes capable. Tant de propariens, tant de saligots. C'est nous qu'on va penser avec des nœuds de cravate, des bleus, des blancs, des rouges et des couleurs cocu.
Céline, oui, on allait pour se faire insulter, là. Entendre des insultes.
Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Ah, ça dépend des adresses. Peut-être qu'au 75 bis rue des Martyrs, c'est toujours le cas, je ne sais pas. Je ne suis vraiment pas spécialiste de la question, vous savez.
En tout cas, je ne crois pas avoir entendu Martin Dost insulter son public, ni... Monsieur K, d'ailleurs.
Si, elle le fait. Elle a même une super chanson où elle les insulte.
Ah, va nous la chanter.
Ouais.
Non, je l'ai, le point de départ de Monsieur K, c'est vraiment, j'étais pas très gentil avec le public.
Ah.
Vraiment. Il y avait des gens qui avaient peur de moi.
Parce que maintenant, vous êtes sympa.
Je suis plus gentil, j'ai mis de l'eau dans mon vin.
On revient de loin.
Alors, histoire du cabaret, on a commencé donc 17e, 18e siècle, 1842, les mystères de Paris, Eugène Sue. On va continuer de progresser et on arrive sur le père, pas le père de l'église, mais quasiment, le père du cabaret moderne, Rodolphe Salis.
Ah oui.
Alors, allons-y.
Oui, mais alors Rodolphe Salis, malheureusement, on n'a pas d'archives sonores. Voilà. Moi, j'aurais tellement aimé entendre sa voix. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Rodolphe Salis?
Ah bah, je sais pas, faites-nous les honneurs du Chat Noir, Céline.
Bah alors, le Chat Noir, on peut déjà donner une date, 1881. Donc, il est considéré comme le premier cabaret artistique, puisque c'est dans ce tout petit endroit qui faisait 12 mètres carrés, il me semble de mémoire, Monsieur K. En tout cas, c'est ce qu'on en dit. En 1881, il décide de faire taverne, comme il avait l'habitude de le faire, et de créer des successions de numéros. Donc on pouvait venir déclamer des poèmes, chanter une chanson, faire un petit numéro de castagnette, même si je ne suis pas sûre que les castagnettes étaient à l'honneur à l'époque. Donc on a tendance à dire que l'arrière-grand-papa de tous les cabarets, c'est en effet Rodolphe Salis. Mais je ne sais pas, est-ce que Martin Doss, vous vous sentez l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Rodolphe Salis?
Non, et c'est vrai qu'on le met souvent en point de départ, et pour simplifier les choses, c'est un bon point de départ, mais comme on l'a dit, il y a des choses qui précèdent. Éric Hazan nous parle d'un cabaret très très proche de Notre-Dame au XIVe siècle, où il y aurait eu des chansons et des tours de magie, de la superstition, des espèces de petites expériences de science qu'à l'époque on appelle surnaturelles. On sait que pendant la Révolution française, la première, les artistes de cabaret ont joué un rôle. On sait qu'en 84, il sort Il pleut bergère, qui va devenir un succès à Paris, qui va être joué par des hommes qui vont s'habiller en Marie-Antoinette et qui vont chanter il pleut bergère, rentre tes blancs moutons, qui devient soudainement une étrange menace et qui va faire partie des chansons chantées par les Parisiens lors des nombreuses marches qui vont avoir lieu de Paris à Versailles à cette époque-là. Donc, je pense qu'il est le fruit, il est un aboutissement plus qu'une création, et c'est vrai que nous en sommes un prolongement à Paris et dans plein d'autres villes où les cabarets existent aujourd'hui.
Je crois qu'il ordonne les choses surtout, en fait. D'une certaine manière, il pense le lieu comme lieu de divertissement. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la figure du maître des cérémonies, qui n'existait qu'à peu près dans les cirques, c'est lui qui l'impose. C'est-à-dire, lui, il n'est pas artiste. Enfin, il est peintre, mais la carrière, elle est courte, voire... voilà. Voilà. Et il s'impose en tant que passeur de numéros et avec un cérémonial. Donc voilà, il accueille le public dans le deuxième Chat Noir d'une certaine manière aussi, qui est beaucoup plus rococo que dans le premier Chat Noir. Et puis il ordonne effectivement des grands charivari et des grandes cérémonies dans les rues de Montmartre. Donc c'est un metteur en fête. On va dire, c'est un des premiers metteurs en fête.
Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il a en effet le goût de la fête et l'événement. Je pense par exemple, quand il décide de quitter le premier Chat Noir qui est trop petit pour aller rue Victor Massé, qui sera l'emplacement du deuxième Chat Noir, il organise un grand défilé dans la rue avec des fanfares, avec des costumes, des chansons. Il organise aussi à un autre moment sa propre mort, où il annonce dans son journal, le Chat Noir, que Rodolphe Salis est mort et qu'on peut aller saluer sa dépouille. Donc les gens viennent et puis c'est lui qui fait l'accueil et qui fait presque le pleureur devant sa tombe. Donc c'est quelqu'un qui s'amuse de tout et qui en effet prend du côté du cabaret, mais qui prend en effet du côté aussi des charivari, du carnaval, de toutes sortes d'événements pour finalement rire et faire feu bois de tout. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Rodolphe Salis, qui par ailleurs n'avait pas l'air d'être un homme très commode, parce qu'il a réussi à se fâcher à peu près avec tout le monde, de
créer la riposte des jaloux. Il y a des gens.
Oui, du coup, il y a eu plein d'autres cabarets qui se sont faits, donc c'est peut-être une bonne chose aussi pour ça.
Oui. Son frère était juste à côté avec l'âne rouge.
Alors, est-ce que ça, d'une certaine façon, ça transporte l'épicentre du cabaret du côté de Montmartre et de... C'est là, parce que c'est là qu'après les choses vont se faire, le Moulin Rouge.
Mais ce qui se passe à Montmartre, c'est que c'est la campagne pendant très longtemps.
Mais c'était une commune hors Paris.
C'était une commune hors Paris et il y avait des champs à Montmartre. Et les artistes, quand ils vont arriver, vont chercher des lieux où vivre. Et les paysans de Montmartre vont assez vite leur dire « Mais tu peux dormir chez nous si tu viens nous aider deux secondes dans la vigne ou dans le champ. Il va y avoir un échange de bons procédés qui va pouvoir se créer. » Et c'est comme ça que les artistes arrivent à Montmartre en faisant quelques heures de travail par jour dans les champs, dans la ferme, par jour ou par semaine d'ailleurs, parce que certains... À partir du moment où ils ont leur lit, ne foutent plus grand chose. Mais c'est cette jonction qui se passe à Montmartre.
Mais oui, Montmartre qui est quand même un lieu de fête déjà depuis pas mal de temps. Donc un certain nombre de cabarets sont là-bas, mais ça ne veut pas dire que tous les cabarets sont réunis à Montmartre. On en retrouve dans d'autres endroits à Paris. Et puis évidemment, on parle beaucoup de Paris parce que Paris a mieux été documenté, je pense, que les autres grandes villes de région, comme on dit. Mais voilà, le principe, c'est que, comme on a dit au début de l'émission, on peut faire cabaret, même avec un petit bout de trottoir et avec deux bouts de ficelle. Donc, ce n'est pas propre à Montmartre. Ça.
Alors là, on parle de Salis, on parle de chanteurs, on parle de diseurs, de raconteurs, de personnages qui expectorent un peu comme ça. Mais il y a la dimension de la danse. Et ça, ça va être une mutation essentielle.
À l'intérieur du cabaret.
À l'intérieur, oui, alors, le Moulin Rouge, le Cancan.
Oui, mais alors, à cette époque-là, le Moulin Rouge ne s'appelait pas cabaret. Et donc, une fois encore, de par cette espèce de forme poreuse, au bout d'un moment, les influences du musico, les influences des autres lieux de spectacle font que tout à coup, on peut faire un numéro de danse. Mais je ne suis pas sûre, monsieur K, que la danse était le point de départ du cabaret.
Non, puis le Moulin Rouge c'était un café-concert avec une salle de bal et une attraction foraine au milieu, puisque dans l'éléphant il y avait le pétoman et la danseuse orientale. Mais c'était vraiment un lieu de divertissement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'effectivement les différentes formes de divertissement populaire pour moi font partie aussi des racines du cabaret, parce que les deux propriétaires du Moulin Rouge, quand ils l'ont créé, avaient déjà des expériences préalables de fêtes foraines, d'une certaine vision très populaire et très festive de du divertissement. Donc voilà. Et puis le French Cancan, à la fois c'était une attraction dans le bal, voilà. La danse, non, moi je pense, ce qui m'intrigue le plus, c'est à cette période-là, l'arrivée des cabarets d'attraction qu'on appelait attraction, l'enfer, le paradis, le cabaret du néant, les truands, les assassins, tous ces cabarets un peu qui se jouent justement d'une certaine image un peu fantasmée du cabaret, qui en font des lieux très étrange quand on voit les photos et les images de ça. C'est
ça qui est quand même extraordinaire. C'est un peu comme pour le roman gothique. Le cabaret devient très vite parodie du cabaret. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de cabaret qui se joue de lui-même très rapidement.
On est dans une course à l'échalote. À l'époque, on l'a un peu oublié, mais même, enfin, quand Buffalo Bill vient à Paris à la fin du 19e siècle, il installe son spectacle au Bataclan, et le clou du spectacle, c'est une course de bison dans le Bataclan. Donc il y a une espèce de course à l'échalote à l'époque où on commence à s'autoriser des choses, on commence à avoir de la machinerie un peu impressionnante, et où on peut faire de la machinerie sans se faire sans risquer un procès pour hérésie. Donc on commence à se faire plaisir, très plaisir, et tout le monde en rajoute, tout le monde veut en faire plus.
Et le bout de ficelle commence à devenir une solide câble de...
Oui, ce qui permet à chacun d'aller dans son style de cabaret. Si on est un peu un fan de tout ce qui touche au morbide, et ben on va en effet aller au cabaret de l'enfer. Si on est un peu plus athée, on va plutôt aller au cabaret du néant, où là on sait qu'après la vie, après la mort, il n'y a rien, et on va parler de décomposition. Donc il y a quelque chose qui moi je trouve est tout à fait joyeux dans ces propositions, parce que c'est une sorte de train fantôme où on a l'impression que chacun a une nouvelle idée et que les idées aussi se piquent assez facilement.
Alors, troisième son ce soir dans ces mauvais gens spécial cabaret, Odette, avec un chef-d'œuvre, il faut le dire.
Elle est merveilleuse.
Odette, c'est quand même génial. Alors, qui est Odette, Céline?
Odette, son nom, je dirais, à l'état civil, c'est René Goupil. C'est un artiste de cabaret qui est chanteur, qui est cabaretiste, qui au départ était décorateur d'ailleurs, et qui s'est lancé dans la chanson en 1932. Et là, on va l'entendre dans une archive.
Lancé dans la chanson, mais d'une manière très particulière, en travesti.
Oui, En travestie, bien sûr. Ça me paraît tellement évident que j'oublie de le dire. Mais bien sûr, Odette était travestie. Mais il va nous raconter un petit peu tout ça. En tout cas, l'archive qu'on a date de 69 et il est alors retiré du monde du musical puisqu'il est devenu antiquaire et qu'il est au village suisse à Paris qui est un lieu pour les antiquaires. Hein. Donc, il était antiquaire et on l'interroge sur son passé.
Odette.
Alors, ce soir, c'est la fête du village. Là.
Ce soir, c'est la fête du village.
Le thème est particulier.
Oui, ce soir, c'est sur le théâtre. C'est sur le théâtre, sur le musical, enfin, sur tout ce qui est théâtre, le cirque, surtout. Voilà.
On ne peut pas parler de théâtre au village suisse sans parler de vous.
C'est tout à fait aimable à vous.
35 ans de théâtre.
35 ans de musical, de cabaret, c'est-à-dire, j'ai eu mon cabaret Place Pigalle qui a duré 10 ans, j'ai fait des revues au Casino de Paris, à l'ABC, au Théâtre de l'Étoile, un peu partout. Et puis, j'ai fait mon petit tour du monde aussi, avec mes chansons et mes sketchs. Et maintenant, je suis rangé tranquille ici, au milieu de mes opalines, dans le calme et la sérénité.
Je crois qu'en attendant le client, vous faites quelque chose de bien particulier, parce que 35 ans de musical, ça se raconte.
Oui, et c'est-à-dire que je suis en train d'écrire mes meilleurs souvenirs de toute ma vie. De ma vie de gosse, de jeune homme, où j'étais décorateur étalagiste jusqu'à 26 ans. Ensuite, j'étais dans le bain sans le vouloir du jour au lendemain. Je suis devenu valette en 24 heures. C'est l'air d'une blague, mais c'est la vérité. Je n'avais rien appris, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai ouvert le fiacre au Notre-Dame de Lorette. Ensuite, on a acheté l'abbaye de Thélème avec mon associé, qui était Place Pigalle. Et ça a duré jusqu'en 39.
Bah oui, c'est tout un programme.
Voilà, c'est tout un programme. Et entre-temps, en 36, j'ai fait une marvue du Casino de Paris, qui s'appelle Plaisir de Paris. Avec le premier striptease qu'il y a eu en France. Jeanne Warner, une fille admirable.
Chanson que nous avons ramenée de Seine-et-Oise. À Bouffémont, allons-y! Entre Paris et Pontoise, il existe aux environs un patelin en Seine-et-Oise qui s'appelle Bouffémont. Mon ami vient d'y acheter une villa et chaque été, il passe ses journées entières à Bouffémont.
Soin, soin!
Il délaisse même ses affaires pour Bouffémont.
Soin, soin!
Il n'a pas, je vous le certifie, d'autres ambitions. Son seul plaisir dans la vie, c'est Bouffémont. Toutes les fois qu'il doit se rendre à Paris pour quelque temps, en l'embrassant d'un air tendre, je lui dis ne reste pas longtemps. Mais loin de moi, il a le cafard. Et deux ou trois jours plus tard, il reprend le train d'urgence pour Bouffémont. Et pendant le trajet, il pense à Bouffémont. L'exil pour lui, c'est bien rude, le pauvre garçon. Il a tellement l'habitude de Bouffémont. Jamais on ne se quitte.
Voilà, à bouffer mon soin de soin. Alors, c'est de soin de soin ou le nom de la chanson exactement?
C'est de soin de soin.
C'est de soin de soin.
Mais parce que je l'ai entendu chanter et à la barbichette avec vous, monsieur K, et Patachetouille. Si, si, je m'en souviens.
Ah.
Et Martin Dost, récemment, je vous ai aussi entendu chanter de soin de soin au cabaret de poussière.
On l'a chanté en octobre, effectivement, pour notre ouverture de saison. Mais il se trouve que c'est la toute première chanson que j'ai chantée dans un spectacle appelé Cabaret de poussière dans notre squat à Bastille il y a de ça quelques années. C'est une chanson que j'aime beaucoup.
Et vous aimez bien Odette aussi.
J'adore Odette, elle est complètement incroyable. Déjà, elle parle de la revue Plaisir de France. Elle y était avec Pierre Dac, où il faisait un grand numéro qui s'appelle Phèdre à repasser, que je vous invite à chercher sur Internet. C'est exceptionnel, une parodie de Phèdre merveilleuse. Mais surtout, il le dit pas là, mais il a triomphé en janvier 1940 à l'ABC dans un grand numéro où il interprétait Hitler en folle hystérique, ce qui lui a valu un déménagement précipité en mai de la même année pour Monaco, où il a passé le reste de la guerre et c'est un des rares artistes à ne pas s'être produit à Paris pendant l'occupation. C'est assez rare pour être remarqué.
Alors Céline, il y a tout un chapitre sur le gay Paris, la petite chaumière.
Oui, parce qu'on a tendance à dire que
chez Tonton, chez
que
Moon,
les cabarets
le
travestis ont commencé avec Madame Arthur après la Seconde Guerre mondiale, alors que pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est beaucoup plus ancien. Ou en tout cas, une des premières traces, un des cabarets les plus célèbres que l'on connaît, c'est la Petite Chaumière, qui a ouvert ses portes de mémoire en 1828, je crois, et qui était un cabaret travesti. Et en effet, vous en avez cité d'autres. Chez Tonton, alors il y a évidemment...
Chez Tonton, ça c'est emblématique. Ça.
Ou,
c'est un haut lieu.
Chez Moon
surtout, aussi.
Avec Missy, qui était une des figures de chez Moon, l'amant de Colette.
Voilà. Monocle, le Monocle aussi. Les choses ont démarré bien avant l'après-Seconde Guerre mondiale.
Mais d'ailleurs, il y a une longévité extraordinaire. Je me souviens que je suis arrivé à Paris il y a déjà quelques temps. Dans l'officiel des spectacles, il y avait des publicités pour Chez Moon et le Monoc qui continuaient de fonctionner. Donc là, il y a véritablement un ancrage. On n'est pas dans quelque chose de mouvant. Enfin, c'est des lieux qui ont perduré très, très longtemps.
Oui, ça dépend des lieux. Après, très souvent aussi dans le cabaret, les lieux ferment, rouvrent, changent de nom, changent de propriétaire. Donc c'est parfois un petit peu difficile de s'y retrouver, mais il y a quand même quelques constantes et avec des noms, de figures de cabarettistes qu'on retrouve, quel que soit le lieu finalement. En effet, Moon en est un bon exemple d'ailleurs.
Martin Dost.
À quel sujet ?
Sur Moon.
Sur Moon, bah c'est le grand cabaret lesbien, c'est le grand lieu.
Le petit grand cabaret lesbien.
Le petit, oui, c'est tout petit. C'est vrai que c'est, le lieu n'est pas très grand, mais c'est le grand cabaret lesbien, où, qui va servir d'ailleurs de modèle beaucoup à l'Allemagne, à Berlin, qui va être une grande référence, et pour toutes les nuits mauves, et Claire Waldorf, et qui vont nous donner Marlène après, et tout le monde.
Alors justement, on en arrive à ce grand moment dans l'histoire du cabaret européen, la République de Weimar.
Sur le Berlin des années 20, l'écrivain Stefan Zweig écrira dans Le Monde d'hier. Je crois connaître assez bien l'histoire, mais elle n'a jamais produit une époque où la folie eût pris des proportions aussi gigantesques. Une époque évoquant à ce point un asile d'aliénés. Toutes les valeurs, et pas seulement les matériels, étaient chamboulées. On se moquait des lois de l'État, aucune coutume. Aucune morale n'était respectée. Berlin se transformait en une Babel du monde. Bars, parcs d'attractions, débits d'eau de vie poussaient comme des champignons. Les Allemands mettaient dans la perversion toute leur véhémence et tout leur esprit de système. Sur le Kurfürstendamm se promenaient des jeunes gens fardés, la taille artificiellement cintrée et qui n'étaient pas tous des professionnels. Chaque lycéen voulait gagner de l'argent et dans les bars obscurcis, on voyait des secrétaires d'État et de grands financiers caresser tendrement, sans la moindre honte, des matelots ivres. Même dans la Rome antique, on n'avait pas connu des orgies comparables aux bals travestis de Berlin, où des centaines d'hommes en vêtements de femmes et de femmes en habits d'hommes dansaient sous le regard bienveillant de la police.
Ah oui, alors Weimar, un chapitre entier et pour cause, Céline, parce que là, il y a véritablement une espèce de moment, je pourrais appeler ça l'âge d'or, c'est un peu convenu, mais une espèce de, c'est entre deux apocalypses, la Première Guerre mondiale et l'avènement du nazisme, il y a ce moment où tout est possible, tout ce qui est possible sera réalisé, toutes les figures, Anita Berber, Marlène Dietrich, il y a un moment comme ça, extraordinairement puissant et incandescent.
Oui, alors j'aimerais entendre Monsieur K en parler parce que je dois quand même dire que c'est grâce à lui que j'ai découvert la richesse de l'histoire du cabaret parce que je pensais naïvement avant de plonger dans cette histoire que c'était pas une si longue histoire et qu'il y avait pas tant à raconter. Et c'est lui qui m'a dit mais pas du tout, viens assister à un colloque, tu vas voir et tu vas voir tout ce qui se passe. Et c'est grâce à ce moment dont je me souviens encore comme si c'était hier que je me suis dit mais mon Dieu, mais quelle histoire incroyable. Et notamment, je sais que le cabaret berlinois a une place importante dans votre cœur, ne serait-ce que parce que vous vous appelez Monsieur K. Est-ce que K est à voir avec Karl Valentin, qui n'est pas berlinois, qui est munichois, il me semble, mais qui est aussi une des grandes figures des cabarets qui vous a inspiré, Monsieur K.
Oui, bah, le cabaret allemand, c'est effectivement le fils prodigue du cabaret artistique et traditionnel du français, puisque très rapidement les artistes français sont allés travailler en Allemagne. Et avant, effectivement, la République de Weimar, a noté quand même cette très belle expérience et très riche qu'ont été les 11 bourreaux qui étaient à Munich, où là, effectivement, on a repensé une façon de faire les choses, mélangeant musique, écriture, art plastique. Et qui, je pense, est le point de départ de ce qui s'est passé à Berlin après, et puis surtout du mouvement Dada qu'on peut pas mettre de côté, le cabaret Voltaire. Voilà. Après, le cabaret berlinois, c'est, pour moi, c'était un fantasme, donc j'ai essayé de comprendre ce que c'était. C'est trop compliqué à résumer en 5 minutes, c'est impossible. Mais tout à l'heure, on parlait du fait que le cabaret pouvait se moquer de lui-même. Et moi, je trouve que la chose qui résume le mieux le cabaret pour moi, c'est Max Reinhardt qui a dit dans la cave de mon théâtre, on va jouer la parodie de ce qui joue sur scène le soir. Et ça, pour moi, voilà. Ça, c'est vraiment la mise. Le cabaret, c'est la mise en abîme. Et Berlin, effectivement, on a été le chantre parce qu'il y avait plein de choses, des lieux. Mais je pense que personne ne peut s'imaginer les lieux de fête qu'il y avait, des dancings, des musicals où il y avait des patinoires, ça montait, enfin je veux dire, à côté, le Moulin Rouge, le Lido, c'est vraiment, c'est tout petit, ouais. tout petit. De l'écriture absolument folle. Et puis surtout, je te laisse la place après Martin, mais l'endroit le plus important, c'est que Berlin a compris ce qu'était la musique jazz. Et alors qu'en France, on était vraiment sur la mode, c'était l'opérette. Et Berlin a compris le jazz, qui a permis d'ouvrir plein de choses. Alors évidemment, on pense à Kurt Weill et tout ça, mais vraiment le cœur de la musique du cabaret berlinois, c'est un mélange entre tradition et modernité. Et ça, c'est complètement fou.
Martin Lost.
Pour contextualiser aussi 2-3 choses, à la fin du 19e siècle à Berlin, Magnus Hirschfeld ouvre l'Institut de sexologie qui, on peut dire, est le premier centre LGBT, pour faire simple, au monde, où on va étudier de façon bienveillante ce que pourrait être l'homosexualité, la transidentité, en écoutant les gens. Donc c'est déjà Berlin est une ville qui attire, qui a cette réputation, beaucoup de gens comme ça. Et Berlin est une ville isolée. Si vous regardez encore une carte de l'Allemagne, il n'y a pas de grande ville à côté de Berlin. Donc les grandes villes du cabaret en Allemagne, c'est Munich, c'est Berlin, c'est Cologne, un petit peu Hambourg. Mais Berlin, à cette époque-là, reste une petite ville très très isolée. Donc il y a une liberté folle et il y a une volonté. On sort d'un charnier, d'une boucherie horrible qu'est la Première Guerre mondiale. Les artistes allemands se disent, on va faire comme Paris, on va s'éclater, on va s'en foutre et on va s'amuser. Et c'est vraiment, il y a une liberté folle. On ne se rend pas compte de ce qu'a été Berlin. Berlin a été une ville plus gay que ne l'a jamais été San Francisco, par exemple. En 33, il y a plus de 100 commerces gays et lesbiens à Berlin, qui ne sont pas que des dancings, mais aussi des coiffeurs, des vendeurs de journaux qui se revendiquent LGBT. Et il y a vraiment une folie qu'on oublie. La scène lesbienne à Berlin, les Nuits Mauves, Claire Waldorf, va être une scène extrêmement importante qui va nous amener énormément d'artistes. Marlène s'est formée dans ces cabarets-là, dans les cabarets lesbiens. Et c'est Claire Waldorf qui va créer Marlène, parce que Marlène va arriver, elle va vouloir faire la petite grosse rigolote, qui est le truc à la mode à l'époque, et Claire va lui dire, non ma chérie, monte sur scène, allume une cigarette, fume-la, quand elle sera finie tu pourras sortir de scène, et c'est tout ce que t'as à faire, et c'est ce que Marlène a fait tout le reste de sa vie.
Et on sait ce qu'il en advint. On continue avec votre parade sonore, Céline, avec Bambi.
Oh ben, on peut l'écouter tout de suite, même, on est quoi? On met une petite date, on peut dire. Allez, que Bambi est arrivé, Bambi est arrivé en 53 chez Madame Arthur. Bambi est né en 35 en Algérie, a signé homme à sa naissance. Et en effet, le cabaret signifie beaucoup pour elle. C'est un extrait de la série documentaire que j'avais faite avec Laurent Polleret.
Laurent Polleret!
Cabaret qui a été diffusé l'année dernière, qui sera rediffusé la semaine du 29 décembre.
Pour moi, personnellement, le cabaret représente la possibilité de m'affirmer et de vivre en quelque sorte. Parce que vous savez que, bon, j'arrive avec une identité et des vêtements de garçon masculin. Et décider de vivre ma vie, c'est-à-dire de me transformer de telle sorte que je puisse vivre et tranquillement ma vie comme ça. Et il n'y a aucune possibilité de le faire à Alger. Et je vois qu'il n'y a aucune possibilité de le faire à Paris également, sauf si on travaille dans un cabaret dit de travesti. C'est ce que je fais en allant au Carrousel. Et le patron du Carrousel me demande si je sais danser ou chanter pour travailler. Je ne sais pas. Je lui dis non. Il me dit, c'est pas grave, tu iras travailler chez Madame Arthur. C'est lui le patron également. Tu iras travailler chez Madame Arthur. Tu demanderas à Madame Germaine, c'est ma femme. Et tu travailleras. Mais j'ai travaillé comme ça. Voilà ce que ça a représenté pour moi. pour les gens, c'était tout autre chose. C'était du spectacle, c'était de l'amusement. Chez Madame Arthur, c'était surtout l'amusement. Le spectacle, c'était différent au Carrousel, en ce sens que c'était vraiment un spectacle beaucoup plus organisé et surtout beaucoup plus sérieux, quoi. C'était des numéros plus sérieux, il y avait des charges, mais enfin, c'était du comique aussi, quelquefois, mais c'était des charges de la Comédie française ou des choses comme ça, tandis que chez Madame Arthur, c'était à peu près la grosse rigolade, comme on disait. Mais bon, moi, je le faisais pas. Je chantais mes petites chansons et c'est tout.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Bambi, alors effectivement, tout ça nous introduit aux années 50.
Oui, alors avec évidemment le témoignage de Bambi, on touche à une autre question qui est très présente dans les cabarets d'aujourd'hui, qui est évidemment la question du genre, puisque Marie-Pierre Pruvot le dit elle-même, c'était un des rares endroits où elle pouvait être réellement qui elle voulait dans ce cabaret, donc tout en travaillant chez Madame Arthur et au Carrousel. Et je sais que donc Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi, est bien connue et de Monsieur K et de Martin Dost, parce qu'elle continue à avoir un œil, une oreille tout à fait bienveillante sur les cabarets d'aujourd'hui.
Et une baguette magique, c'est vraiment une marraine la bonne fée. Ouais. C'est vraiment une marraine la bonne fée. Elle porte tout le monde, elle nous pousse, même quand on chantait faux et qu'on était prépubère, elle nous disait « Continue ma chérie, continue, tu vas aller loin ». C'est vraiment quelqu'un qui porte, qui accompagne cette scène. C'est vraiment une de nos marraines.
Monsieur K.
Moi, je voulais juste repréciser le contexte parce que, effectivement, on charrie des fantasmes un peu comme ça. Mmh. À la différence, effectivement, de Berlin dont on vient de parler, Madame Arthur était interdit tout rapport homosexuel. C'est-à-dire deux hommes qui s'enlaçaient, ils étaient mis à la porte, voire, on appelait la police pour venir les chercher. Il était hors de question d'avoir des comportements homosexuels chez Madame Arthur. Je le reprécise.
Et elle le dit, oui. Elle dit d'ailleurs.
Elle était harcelée la journée par la police, oui. Et absolument pas défendue par leur patron. Quand elle se retrouvait au poste, elle pouvait compter que sur elle-même. C'était dans un contexte extrêmement dur.
Et le public n'était pas du tout un public homosexuel. Elle le dit dans cet entretien. Oui. Elle dit que les gens qui venaient les voir les considéraient parfois aussi comme des bêtes de foire et que le public était un public de petits commerçants de proximité qui n'avaient pas d'affinité réelle avec les personnes qui étaient présentes sur scène.
Alors on va terminer en évoquant le Crazy Horse Saloon parce que quand même c'est la... Et comment percevoir, parce qu'on se rend compte au fil de notre discussion qu'il y a à la fois, je dirais, un cabaret touristique, un cabaret qui répond justement, comme on le disait, aux fantasmes, à des manières internationaux, le cabaret mondial un peu, qui livre, je dirais, aux touristes ce qu'il attend, qui satisfait les voilà. Et puis quelque chose qui est beaucoup plus expérimental, beaucoup plus avant-gardiste, incertain, dangereux. Donc où se situe le Crazy Horse, Céline, entre les deux?
Ah ben c'est toujours compliqué parce que quand vous allez dans n'importe quel office du tourisme et que vous vous demandez à aller voir un cabaret, on vous citera le Crazy Horse, le Moulin Rouge et le Paradis Latin. On pensera peut-être pas à citer tous les autres cabarets qui ont le vent en poupe actuellement. Donc je dirais qu'il fait plutôt partie de la grande tradition du cabaret, d'abord parce qu'il est assez ancien, puisqu'il date des années 50. C'est un type de cabaret très particulier, qui est, je dirais, un peu seul de son espèce, parce qu'on n'est pas vraiment dans le music hall, on est dans de la projection de lumière sur des corps de danseuses très dévêtues.
C'est de l'oparte.
Nues.
Quasi, oui.
Elles sont un mini cachet, mais elles sont nues.
On écoute le boss.
Alain Bernardin, est-il facile aujourd'hui à Paris, de tenir un établissement de nuit, parce qu'on raconte beaucoup de choses sur ce milieu. Non, mais le Crazy n'est pas un établissement comme les autres, en ce sens que, par exemple, je ne le tiens pas comme on tient un cabaret, je le tiens comme on tient un théâtre. Vous avez toujours l'envie de faire la différence entre votre établissement et un cabaret. Vous trouvez que cabaret, c'est péjoratif?
Non,
comme
c'est
dans
un joli
films.
Mot. Non, c'est un joli mot. Le mot cabaret, d'ailleurs, est un mot ancien. Avant, ça voulait dire au XVIIIe siècle, l'endroit où on va boire. C'était joli, cabaret. Mais ce n'est plus joli maintenant, parce que le cabaret maintenant s'apparente à un établissement aux portiers racoleurs qui vous oblige à boire du champagne et qui vous fait dépenser des fortunes, tout ça pour s'ennuyer à mourir.
Oui, d'ailleurs, il y a un mot de vous dans les mémoires que vous commencez à rédiger, car un livre va sortir et vous vous raconterez totalement. Vous dites, en parlant des cabarets de Pigalle, « Je découvre un univers où le client est, a priori, considéré soit comme un pigeon, soit comme un imbécile. » Vous n'êtes pas tendre avec ce genre d'établissement.
Oh, je dis pas que j'aime pas les cabarets de Pigalle, non. Je n'aime pas qu'on se moque du public. Je déteste ça, qu'on se moque des gens et qu'on abuse de leur confiance, vous comprenez? Parce que c'était ça, finalement, le cabaret en 45, 50, c'était vraiment ça, après-guerre. On considérait les gens vraiment comme des idiots.
Vous êtes très dur, car vous poursuivez l'obséquiosité et la règle, l'entraîneuse de service, le champagne obligatoire, le spectacle escamoté. Seule l'addition reste sérieuse. Vous ne risquez pas de vous attirer de gros ennuis avec justement ceux qui ne fréquentent pas chez vous en disant des choses pareilles?
Pourquoi? Non, je disais que je dis une chose...
Je ne sais pas, moi je...
Que tout le monde sait, non, tout le monde sait que les cabarets étaient, et certains sont encore, des endroits à pigeons, comme on dit vulgairement. Hein. C'est exactement. Enfin, il y a des gens qui aiment être pigeonnés, remarquez. Et ils ont des clients, ces établissements-là. Moi, je fais un spectacle pour moi-même. Et je me suis toujours dit qu'il y a toujours, parmi les gens, il y a toujours des gens qui pensent comme vous. Il y en a bien toujours, tous les soirs, 4 ou 500 qui pensent comme vous, qui aiment les choses que vous aimez vous-même.
Voilà Alain Bernardin pour clore la grande parade de Céline Duchesnay ce soir autour du cabaret, autour de son livre paru aux éditions Michel Lafon avec Monsieur K et Martin Dost. Bon, en définitive, on ne va pas quitter le cabaret avec vous, Paloma Hermina Hidalgo.
Non, on va faire place maintenant au Temple de l'Amour.
Ah.
Le Palais Galliera à Paris déploie une exposition basilique dédiée à Rick Owens, créateur de mode américain, né en 62, maître du pacte faustien entre subversion et haute couture. Pour preuve, cette scénographie cyclopéenne pensée par l'artiste lui-même, où se croisent quelques 100 silhouettes, des vidéos, des installations, des œuvres rythmées non sans dissonance, de glitchs brutalistes et de syncopes gothiques. Jugez du peu, des mannequins pendus au plafond, figés en posture futuro-décadentiste que patine la lumière du soleil. Feutre, glitter, laine usée, coton brisé, couleurs cassis, ébène ou dust grey. Glamour vespéral, mysticisme, grunge, arôme darkwave, auxquels s'allient les parfums méchamment corrompus de Wagner, Huysmans, Gustave Moreau, Ziggy Stardust ou bien évidemment des éponymes Sisters of Mercy. Palimpseste de drapé et de cuir surnaturalisé qu'exauce encore chez Owens ce puissant souci de la corporalité, fut-elle écorchée? Petit secret, Rick le Nippon a lu quelque part que les Yakuza sertissaient de perles leur scrotum. C'est donc allègrement qu'il a appliqué le procédé à ses hauts en jersey. Plus loin, Californie LGBT des années 80, stepping afro-américain en fiesta brasillante, cam et alcool à gogo, mais aussi carnage du sida et violence sociale ou de genre dont témoignent ces défilés aux noms oraculaires, Vicious, Sphinx, Cyclope, où le corps se fait politique, caché, convoité, opprimé. Le dénuement comme héroïsme, oui, jusqu'à cette reconstitution poignante de la chambre de Rick et de sa capiteuse icône Michel Lamy à Hollywood. Owens, asset underground, astre noir de l'anatomie post-humaine, compose ici un substrat d'électricité goth rock et d'opéra des steppes, un syncrétisme d'hybride avec, en note de fond, mineure, cette souffrance post-baroque, cette déchirure ontologique qu'on croirait pourtant impossible à transfigurer. C'est dire qu'il capte à coups de paillettes et de robes fourreaux cette fausse contradiction, une mode à la fois rude et lyrique. Presque archéologique. Le pli, comme celui de Leibniz chez Deleuze, incarne ici ce déploiement d'une complexité tragique, renvoyant comme en filigrane à la transmutation du corps, ni plus ni moins. Rick Owens, Temple of Love, une oraison radicale à découvrir jusqu'au 4 janvier 2026 au Palais Galliera à Paris.
Merci Paloma, on passe maintenant à l'almanach de l'étrange.
Hello from the children of planet Earth. Hello from the children of planet Earth.
Ce sont de très courtes vidéos qui sont apparues sur les réseaux à partir de 2020. On y voyait en Russie une étrange créature déambuler dans l'espace public, avec son corps entièrement scotché de rubans adhésifs noirs ou rouges, perché sur des talons vertigineux, la tête rasée et peinte en blanc, avec les yeux et la bouche cerclés de noir, elle semblait venue d'une autre planète, un alien avec un corps qui pouvait se transformer en fonction des situations. À Saint-Pétersbourg, elle promène sa silhouette noire avec des mains aux doigts si longs qu'ils semblent glisser sur le sol enneigé. À Magadan, son corps est cette fois entièrement argenté, agrémenté de bubons semblables à des ballons. Elle court sur le sol glacé, alors qu'au loin, un couple se promène avec son enfant. Elle glisse, elle tombe. La chute fait partie des éléments récurrents de ces vidéos. On ne sait plus alors si on a affaire à un clown, certaines vidéos la montrant avec une collerette autour du cou, ou à un être qui, malgré les chutes, se relève et reprend son cheminement solitaire au milieu de la foule. Qui se cache derrière cette créature dont les yeux noirs ne semblent être que d'immenses pupilles ? Il s'agit de Jenna Marvin, performeuse queer non-binaire, née en 1999 à Magadan, en Russie. Une artiste qui se situe dans la lignée des mouvements trash art et de l'actionnisme, faisant de son corps son mode principal d'expression, puisant dans l'art du drag, dans sa version la plus politique, s'inspirant de la flamboyance de l'artiste australien Lee Bowery. Orpheline de père et de mère, élevée par ses grands-parents, Jenna Marvin raconte dans une vidéo postée en 2021 que son apparence et ses costumes effrayants n'ont pas pour objectif de faire peur, non. Ils incarnent la peur qu'elle ressent habitant dans une ville et un pays où elle subit de nombreuses attaques homophobes. Sur la vidéo, on la voit dans un décor lunaire, semblable à un insecte avec de longues antennes, à peine protégée par sa carapace, regardant les lumières de la ville au loin. Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation est devenue intenable pour Jenna Marvin. Ses apparitions ouvertement anti-guerre dans l'espace public, les coups, les arrestations, l'extrême durcissement des lois à l'encontre des personnes LGBTQIA+, l'ont poussée à fuir son pays. Depuis 3 ans, elle est réfugiée en France. Le 4 décembre dernier, elle a présenté sa première exposition personnelle en France à Transfo, le centre culturel d'Emmaüs Solidarité à Paris. Sous le titre de Propaganda, elle propose photos, vidéos, sculptures interrogeant la violence, la peur, l'aliénation, mêlant révolte militante et survie flamboyante. Après une première performance où Jenna, recouverte de scotch rouge, chaussures à talons, aux pieds, aux genoux, aux mains, se contorsionne, se débat, tombe au sol avant de se relever, 2 autres performances suivront les 22 janvier et 7 février prochains. Propaganda de Jenna Marvin est à voir à Transfo et Emmaüs Solidarité à Paris jusqu'au 7 février. Et à noter que Queen Dom, un film d'Anya Galdanova retraçant la vie de Jenna Marvin, ressort régulièrement en salle et est visible sur les plateformes. 2 événements à ne pas rater et plus d'informations sur la page de l'Almanach de l'étrange.
Céline, quelques dates?
Alors, on peut dire que le Cabaret de Poussière sera du 21 au 30 janvier 2026 au Zèbre de Belleville. La Barbichette, le 9 janvier à la salle Paul B à Massy, le 23 et le 24 janvier à la Machine du Moulin Rouge. Et notons aussi qu'il y aura Madame Oz Bachung qui est au Théâtre du Rond-Point à Paris. Et demain, je ferai d'ailleurs une petite signature à 18h30 après le spectacle. Et le spectacle durera aussi le lundi et le mardi 30 décembre.
Vous savez désormais où aller. Merci Céline, merci Paloma, et puis merci pour ce livre Cabaret au pluriel, donc paru aux éditions Michel Lafon. Ainsi s'achève notre dernière émission de l'année. Merci Monsieur K d'avoir été notre invité. Merci à Martin Deuss d'avoir été présent également. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Julie Garraud, Claire Poissignon, Céline Duchesnet, Claire Martin-Dugard, Paloma Hermina Hidalgo et François Geulier vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine pour le premier événement de l'année 2026. Je serai en compagnie de Nicolas Chemla pour L'Ensorcelé et nous diffuserons un entretien avec Orgotique, proche de Jenna Marvin. Et d'ici là, bonne nuit à tous.